gonila naše snove, sad se vraćaš u plakana.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary. Bonjour à toutes et à tous. On vous emmène dans un drôle de pays cette semaine, à la fois imaginaire et bien réel. Un pays qui se gagne en lenteur, où les heures, les mois et les semaines se font vagabondes et musicales. Sur ces chemins de l'errance, aux confins de l'Europe et de l'Asie, on y croise des musiciens de rue en pagaille, des poètes iraniens chantant l'amour et le désespoir sous les ponts à la nuit tombée, ou des hobos de l'Est qui, dans un train de nuit entre Belgrade et Sofia, fument des clopes serbes et jouent des airs tziganes pour tuer le temps. Là-bas, les routes se font diatoniques ou chromatiques et les cartes se déplient en accordéon. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, ce pays s'appelle l'Accordéonistan.
Dieu que la vie est cruelle, aux musiciens des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui sait-il qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre, c'est-tu vous, c'est moi, mais non, c'est l'accordéon. Accordéon, l'aumône à l'accordéon.
Bonjour Adrien Segui.
Bonjour.
Alors c'est vous qui m'avez révélé l'existence de ce curieux pays et c'est à vos côtés qu'on va faire et défaire le voyage en accordéonistan depuis Paris, sur un air de musette, puisque c'est de là que vous avez décidé, en 2014 déjà, de vous lancer à 24 ans vers l'Est, un piano à bretelles en guise de sac à dos. Alors un voyage qui va durer 15 mois, que l'on peut notamment retrouver dans un podcast, un voyage en accordéonistan sorti il y a quelques temps, et un ciné-concert qui devrait prochainement, on lui souhaite, retrouver la voix des salles. Alors ce continent musique qu'est l'accordéonistan, où est-ce qu'il se trouve exactement? Dans votre imagination peut-être d'abord?
Oui, tout à fait. C'est un pays imaginaire, c'est un pays dans lequel on fait des rencontres en musique et visiblement avec un accordéon, puisque ça s'appelle l'accordéonistan. C'est un pays qui s'étire autant dans l'espace que dans le temps, dans lequel j'ai pris un grand plaisir à voyager. Et c'est un pays totalement inconnu, donc c'est une contrée dans laquelle je me suis jeté un petit peu à l'aventure sans connaître la fin, sans connaître le cheminement.
Ah, il y avait quand même une destination, où il y avait une quête.
Oui, alors à tout voyage, il faut un fil conducteur. Le mien, ça a été de chercher un instrument bien réel cette fois. C'est un instrument chinois qui s'appelle l'orgue à bouche, le shang. On raconte, alors les ethnomusicologues ne sont pas forcément d'accord sur cette histoire, mais on raconte que c'est un instrument qui a inspiré la création de l'accordéon, puisqu'en fait, il utilise le même procédé de création du son. Donc c'est un instrument qui ressemble absolument pas à un accordéon. On souffle dedans, c'est une sorte de réservoir d'où partent plusieurs tuyaux en bambou. Et quand on souffle dedans, ça fait sonner des anches. Les anches, c'est des petites lamelles en bambou. Et c'est le même procédé qu'il y a dans un accordéon, sauf qu'avec l'accordéon, on utilise le soufflet. Je vous dévoile tout de suite la fin de l'aventure. Quand j'ai découvert cet instrument en Chine, j'ai retrouvé le même son que l'accordéon. Et ça a été assez fantastique pour moi.
Oui, parce que vous avez fait ce voyage, même s'il est imaginaire, il y a quand même un voyage bien réel, celui que vous avez fait, oui, pendant ces 15 mois. Vous avez finalement suivi la route de la soie, qui était cette ancienne route d'échange, de commerce, qui jadis reliait l'Europe à l'Asie, entre, on va dire, la Turquie aujourd'hui et Xi'an en Chine, avec ces villes mythiques que vous avez traversées, que sont Samarkand, Boukhara ou Kashgar, sachant que sur ces routes, il y avait les étoffes, les biens, les cultures, les idées qui ont beaucoup voyagé, mais aussi les instruments. Et justement, pour revenir à ce Sheng, c'est pas forcément par la route de la soie, puisque c'était beaucoup plus tard, mais c'est comme ça qu'il est venu en France. En tout cas, il a voyagé via des Européens qui l'ont découvert. C'était,
oui,
à quelle époque?
C'était au 19e siècle. C'est un instrument qui a été ramené par un missionnaire français. Je pense que c'est un instrument parmi d'autres objets qui ont été ramenés de contrées lointaines pour être un petit peu analysé, regardé. Et effectivement, ça a inspiré des luthiers ensuite européens pour créer l'accordéon. L'accordéon, c'est une invention européenne.
Autrichienne.
Autrichienne, plus précisément, oui.
Alors vous êtes ingénieur de formation et très tôt, vous avez voyagé vers l'Est, des Balkans à l'Ukraine. Et au-delà, en Asie centrale, il y a ces fameux pays en stan. Un suffixe persan qui désigne un territoire, un pays. Et vous, à l'issue de ce voyage de 15 mois où vous avez emmené votre accordéon partout, est-ce que vous diriez que c'est un instrument nomade ? Parce que là, à première vue, ça paraît lourd, encombrant. On ne se dit pas qu'on peut voyager facilement avec un accordéon.
Vous savez, le plus léger accordéon qui existe, c'est un harmonica. Alors, ce n'est pas un accordéon, évidemment, puisqu'il n'y a pas de soufflet. Mais tout ça pour dire que, en fait, c'est un instrument qui peut revêtir plein de formes différentes. Et les plus lourds peuvent effectivement faire entre 10 et 15 kilos. Mais les plus légers peuvent aussi faire entre 5 et 7 kilos. Et moi, c'est avec un accordéon comme ça que j'ai voyagé. Alors, je ne vous cache pas que ça a été une aventure assez sportive.
Parce que c'était quoi ? Sac à dos au dos et accordéon devant ?
Oui, c'était un peu l'homme sandwich. Avec l'accordéon devant, si je me souviens bien. Et effectivement, je suis parti très léger au niveau de mon sac à dos. Ensuite, pourquoi c'est un instrument nomade ? Tous les instruments sont nomades, hein, à part les instruments de salon, peut-être comme le piano. Mais celui-là, j'ai l'intime conviction qu'il a été créé pour des musiciens qui peuvent rester debout, qui peuvent se déplacer, parce que c'est un instrument avec des bretelles qu'on porte à bras le corps. On dit le piano à bretelles, hein, avec en fait c'est un instrument complet avec un clavier pour faire des mélodies, avec une main gauche pour s'accompagner autant la rythmique, tout le monde connaît la rythmique de valse de l'accordéon, donc c'est une espèce d'instrument orchestre à lui tout seul qu'on peut absolument transporter partout. Vous savez, en fait l'accordéon, si ça a le son aussi malheureusement criard qu'on lui prête, peut-être plus dans les instruments qui sont fabriqués aujourd'hui, mais dans les instruments qui ont été fabriqués au début du siècle. En fait, c'était voulu. C'est parce que ce son criard, qui vient d'un désaccordage léger entre les hanches, était fait pour porter le plus loin possible en extérieur. Donc c'est vraiment un instrument d'extérieur au départ.
Et alors, c'est un instrument populaire, vous l'avez dit, c'est un piano à bretelles, comme on l'appelle. Moi, j'ai lu aussi, on l'a désigné comme un piano du pauvre, sauf qu'il peut aussi rendre riche celui qui le joue dans la rue et tend le chapeau. Première étape de votre voyage en accordéonistan en Turquie, le long de l'avenue Istiklal, une grande artère piétonne marchande et touristique d'Istanbul, aux allures de marmite musicale à ciel ouvert. Adrien Séguier, on vient d'entendre des extraits de votre collecte musicale sur l'avenue Istiklal, puisque vous êtes parti avec votre enregistreur, pas seulement pour jouer de l'accordéon, mais aussi pour enregistrer toutes les musiques que vous avez rencontrées sur votre chemin. Et elles nourrissent votre podcast, votre récit de voyage sonore qui est en 8 épisodes, un voyage en accordéonistan. Et sur place, donc à Istanbul, finalement on se disait que vous aviez qu'à appuyer sur REC, sur enregistrer. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Qui est-ce qu'on vient d'entendre exactement ?
Alors, je crois que dans l'ordre, nous venons d'entendre des musiciens ukrainiens, des musiciens kurdes, des musiciens nous-mêmes, le groupe avec lequel j'ai partagé mes 2 mois à Istanbul. Finalement, une mosaïque musicale qui se déploie tout au long de cette avenue. Alors l'avenue Istiklal, faut s'imaginer une artère piétonne qui fait plusieurs kilomètres de long, qui est empruntée par 1 million de personnes chaque jour. Et à l'époque où j'étais à Istanbul, c'était une vraie artère de flânerie pour les Stambouliotes et pour les Turcs de tout le pays qui veulent juste arpenter un univers de musiciens. C'est l'épicentre de mon séjour à Istanbul.
Sachant que vous l'avez dit, cette mosaïque musicale, forcément, elle raconte cette ville qu'est Istanbul, jadis connue sous le nom de Constantinople, située sur les rives du Bosphore, à la croisée des mondes, en fait, entre Orient et Occident.
Oui.
Sachant qu'on découvre dans cet épisode consacré à Istanbul qu'il n'y a peut-être que le muezzin pour réussir à interrompre ces musiciens de rue.
Oui, le muezzin déjà chante 5 fois par jour à Istanbul. C'est un chant qui fait vraiment partie de l'univers sonore de la ville et qui est respecté par beaucoup de monde. Et c'est sûr que pour un musicien de rue qui n'est pas au courant, en fait, on le sait très vite parce que nous, on nous a au départ demandé d'arrêter de jouer pour laisser chanter le muezzin. Après, avec des explications qui étaient très honorables, puisqu'on nous a dit laissez-nous écouter le muezzin, puisqu'après, on sera disposé pour vous écouter et vous donner une petite pièce. Donc, quand c'est le moment du muezzin, c'est le moment du muezzin.
Et alors, vous avez dit vous, c'est votre groupe, puisque vous êtes resté près de 3 mois quasiment à
oui.
Istanbul, parce que vous avez créé un groupe sur place.
Alors, je ne dirais pas que j'ai créé un groupe. En fait, ce groupe s'est créé tout seul. Faut savoir que ce quartier, cette rue, c'est un bouillonnement de musiciens qui viennent des 4 coins de l'Europe et de l'Asie proche. Et effectivement, après quelques soirées à jouer, ce groupe s'est monté un peu de toutes pièces, avec au départ des musiciens un peu changeants, puis finalement ça s'est stabilisé. Et c'est un peu comme ça que j'ai vécu ces 3 mois à Istanbul, en sortant de chez moi tous les matins avec l'accordéon, en rejoignant mes comparses dans cette rue, toujours devant le même café, et en jouant toute la journée pour les badauds de la rue. Et ça a été pour moi un moment assez suspendu, puisque je ne pensais pas rester 3 mois à Istanbul. J'aurais pu y rester peut-être toute l'année si je n'avais pas dû partir à cause de la fin de mon visa. Et parce que c'est une nouvelle vie qui s'est créée dans cette rue, avec une musique au jour le jour, avec des personnes qui nous ont proposé de jouer dans leur restaurant, dans leur bar. Et au final, je suis un peu devenu musicien d'Istanbul, malgré moi. Mais c'est des histoires... De toute façon, sur cette rue, tous les musiciens sont entourés d'une foule de dizaines de badauds en permanence, parce que les gens adorent la musique et adorent écouter. En fait, être musicien de rue en Turquie, c'est pas exactement pareil qu'être musicien de rue en France. Moi, j'ai aussi joué pas mal à Montmartre avant de partir. Les gens qui à Istanbul devant lesquels on jouait sont très attachés à cette musique, parce qu'évidemment on jouait leur musique, puisque j'ai joué avec des Turcs, donc j'ai appris le répertoire. C'est un peu ce que j'ai fait pendant tout ce voyage, en fait, c'était apprendre le répertoire des lieux dans lesquels je me trouvais pour les jouer aux gens dont l'oreille était forcément charmée par cette musique.
Alors, vous l'avez dit, le visa touriste en Turquie dure seulement 3 mois. Donc, vous voilà reparti sur les routes, en road trip anatolien qui, après un détour à Antioche, une étape historique de la route de la soie, vous emmène en Géorgie. À la rencontre, cette fois, de fascinantes grand-mères tchétchènes, chanteuses, joueuses de balalaïka, mais aussi d'accordéon. Parmi elles, Taïssa, qui va tenter de vous apprendre avec son garmonie l'accordéon du Caucase géorgien, les rudiments de sa musique.
E sing.
Là, on a entendu comment vous essayez de reproduire
ah oui, catastrophe.
Un morceau. c'est vous qui le dites. Mais en tout cas, on voit bien à quel point la musique, l'accordéon permet de rencontrer l'autre.
Oui.
Et aussi, on se demande, mais comment vous faisiez pour dialoguer quand même?
Alors,
parce que là, vous parliez quelle langue? Comment vous échangiez avec Thaïs?
C'était un espèce de russe-glish, donc un mélange de russe. En fait, pas vraiment d'anglais, parce que Thaïs ne parlait absolument pas anglais. Je dirais que j'avais des bases de russe quand même, un peu avant de partir, mais des bases très légères. Et je pense que c'est un mélange de langue, des gestes, d'expression du visage, de mots-clés en russe. J'ai trouvé que le russe était une langue assez, assez simple pour s'exprimer basiquement, puisqu'il y a des mots qui sont un peu des mots valises avec lesquels on peut exprimer plein de trucs. Après, c'est vrai que j'avais pas mal de mal. Au début, j'ai construit mon vocabulaire au fur et à mesure. J'ai eu de la chance parce qu'en accordéonistan, on parlait pas mal russe, puisque c'est beaucoup d'anciens pays de l'URSS. Et donc, j'ai pu mettre le russe à profit. Mais dans d'autres pays, et notamment la Chine, ça a été beaucoup plus difficile pour moi. Et c'est d'ailleurs des pays dans lesquels j'ai eu des histoires un petit peu moins drôles et un petit peu plus compliquées à gérer. Et le dernier langage que je n'ai pas évoqué, c'est évidemment celui de la musique. Auprès de Thaïssa, j'ai pris des cours d'accordéon et des cours de chant. Et je n'ai pas vraiment eu besoin de m'exprimer puisque j'avais juste à jouer ce qu'elle me montrait et avoir un échange de répétitions comme ça de mélodies et de chants.
Adrien Segui, Thaïssa, cette vieille accordéoniste tchétchène de Géorgie, vous êtes allé la chercher. Alors en minibus, en autostop, jusque chez elle, dans la vallée de Pankissi. Alors où est-ce qu'on se trouve exactement dans cette vallée de Pankissi?
Alors Pankissi, c'est une vallée à, je dirais, 100 km au nord de Tbilissi. C'est finalement...
La capitale.
La capitale de la Géorgie, oui. C'est finalement pas si loin de la capitale. Mais étrangement, c'est pas si facile que ça à trouver sur une carte de Géorgie, puisque c'est une vallée dans laquelle vivent la communauté tchétchène-kiste de Géorgie, qui est une communauté qui n'est pas chrétienne. Et Thaïssa et son ensemble, en fait, je les ai entendus dans un symposium de musique traditionnelle à Tbilissi, la capitale. Et parmi les dizaines et dizaines d'ensembles polyphoniques géorgiens que j'ai pu entendre, c'est vraiment l'ensemble qui m'a un peu transpercé le cœur, qui m'a ému parce que porteur d'une musique très puissante, très un peu sauvage et à la fois envoûtante, donc parce que c'est des musiciennes qui à la fois interprètent le répertoire traditionnel, mais aussi un répertoire sacré. Donc de confession musulmane, puisque c'est un peuple d'origine tchétchène. Et j'ai été extrêmement touché par cet ensemble-là, et donc c'est effectivement vers elle que je suis allé à la fin du symposium, et quelques jours plus tard, je les ai donc rejoints dans leur vallée.
Dans cette vallée isolée où vit Thaïssa et ses autres femmes qui forment donc cet ensemble, Aznash, oui. De son nom, ces femmes sont gardiennes en quelque sorte de leur tradition musicale, d'inspiration et d'origine soufie, tout à fait. Sachant que cette vallée où elle se situe, c'est quand même une vallée qui est à la frontière tchétchène et qui, depuis le conflit tchétchène, se retrouve finalement avec un islamisme radical qui s'est largement invité dans la région. Et ça aussi, ça vient bouleverser les habitudes, la population, mais aussi la musique.
Oui, surtout à l'époque où j'y étais en 2014, on était en pleine guerre en Syrie. Effectivement, il y avait des départs au djihad à ce moment-là. Moi, je m'en étais pas forcément rendu compte au départ, mais c'est vrai qu'en en discutant par la suite, j'ai un petit peu pris conscience des difficultés qu'elles éprouvaient. Après, je pense que cette radicalisation, entre guillemets, a dû un peu perturber cet équilibre. Donc, effectivement, ces femmes-là, pour resituer dans le contexte, officient, en fait, dans la mosquée locale, des cérémonies soufis avec du chant. Et elle reste très respectée dans cette vallée. Moi, je me rappelle qu'à cette époque, alors, pour un de ses cours d'accordéon, j'avais dû aller chercher l'accordéon de Thaïssa dans le village d'à côté. Donc on y était allé à pied en traversant la rivière sur des rondins, c'était assez rigolo, pour aller chercher l'accordéon. Et l'endroit où... donc nous, on était deux à ce moment-là, j'aimerais le préciser quand même, j'étais avec un autre musicien français que j'ai rencontré à ce moment-là, qui par la suite est devenu le producteur de l'ensemble Aznash. Et c'est grâce à lui que ce groupe, cet ensemble de femmes, peut maintenant jouer. Ils ont joué à la Philharmonie de Hambourg il y a 2 ans. Et donc, en allant chercher cet accordéon, eh ben, évidemment, on a été reçus comme des musiciens. Et reçu avec une chaleur immense. Donc, oui, c'est un peu naïf, quoi, mais bon, la musique comme rempart, ça, c'est clair, quoi.
Car comme dit l'adage, pour écouter la voix d'un peuple, il faut savoir écouter sa musique.
Il est évident que, pour moi, entrer dans cette caverne d'Ali Baba, qui va, je dirais, de Trieste jusqu'à la frontière de l'Inde, je me suis épris de cette musique et plus j'allais vers l'Est, plus elle était belle. À mon sens, le territoire le plus fascinant à cet égard, c'est toute la zone caucasienne. Parce qu'il y a beaucoup de chants en voix nue. Il y a un usage de l'accordéon qui est sublime, alors que c'est un instrument qui m'assomme dans d'autres répertoires et dans d'autres circonstances. Là-bas, l'accordéon qui est joué de main de maître, d'ailleurs, par les tziganes, parce qu'ils ont une façon de la faire tourner, ils ont une façon de lui donner une sorte de punch qui en augmente encore la beauté. Donc, c'est pas un très beau kolo serbe. Les kolos sont des danses en rond, assez difficiles, d'ailleurs, en pas assez rapides. Un très bon kolo serbe joué par un très bon accordéoniste tzigane, c'est du 24 carats.
Dans cette archive de la radio suisse romande de 1998, Nicolas Bouvier, écrivain voyageur suisse de légende, déclare sa flamme à l'accordéon, mais aussi au kolo, cette danse en rond très populaire dans les Balkans, lui qui a longuement voyagé dans ces contrées. Alors en 1953, Nicolas Bouvier part avec son acolyte Thierry Vernet jusqu'en Afghanistan, où leurs chemins se séparent. Un long et grand voyage qu'il racontera ensuite dans son livre paru en 1963 et devenu culte depuis, L'usage du monde. Alors ils sont partis en Fiat Topolino, une petite voiture, tous les deux, et ils vont embarquer aussi avec eux un accordéon, un enregistreur et un micro. Vous le saviez, ça, Adrien ?
Oui, maintenant je le sais. Mais au moment de partir, je n'étais pas au courant. En revanche, ça a été un conseil de lecture qu'on m'avait donné juste avant de partir. Donc ce livre était dans ma poche. C'est un livre que j'ai lu non pas avant de partir, mais que j'ai lu tout au long de mon voyage. Alors c'est rigolo parce que je me rappelle avoir entendu quelqu'un dire que c'était très dangereux de voyager avec le livre de Nicolas Bouvier parce que ça pouvait faire courir le risque de vivre en voyage par procuration. Parce que le voyage de Nicolas Bouvier est tellement riche et intéressant que le sien peut paraître à côté un peu terne. Après,
moi, c'était pas le cas.
Non, c'était pas le cas. Oui, bah, effectivement, on ne peut pas remplacer un voyage vécu dans la réalité. Mais les descriptions de Nicolas Bouvier m'ont vraiment... m'ont ravi, charmé, parce qu'il écrit très très bien. Alors c'était très intéressant, puisque c'est un voyage qu'il a fait dans les années 50. Donc miraculeusement, j'ai lu le livre au fur et à mesure. Enfin, je me retrouve un peu dans les mêmes endroits que lui.
Et donc vous pouviez faire voir la différence entre les années 50 et 2014.
Alors je me rendais compte que voyager en 2014, ça n'a rien à voir avec voyager en 1954. Mais je crois, avec du recul, que la plus grande chance que j'ai eue pendant ce voyage, c'est de ne pas avoir eu de smartphone à ce moment-là, parce que je suis un peu un homme préhistorique de la technologie, enfin je l'étais à ce moment-là, et donc j'ai pas eu accès à toutes les facilités que cette technologie peut apporter.
Donc vous avez voyagé entre guillemets à l'ancienne, en quelque sorte. Je parlais de cartes, peut-être vous en avez déplié. Vous avez sûrement demandé votre chemin. On sent aussi que vous avez voyagé en autostop, de façon comme ça très libre.
Oui.
Donc c'est ça peut-être que vous...
Oui, oui, oui. Et effectivement, demander son chemin, ça m'a souvent permis de faire des rencontres sans le vouloir. Hein. C'était pas du tout... Mais j'avais un accordéon au-devant de moi, donc forcément, les gens qui aiment l'accordéon savent que c'en est un, parce qu'après, c'est dans sa housse. Ici, à Paris, si je me promène avec un accordéon, ça passera peut-être inaperçu, parce que c'est pas aussi visible qu'un violon, un violoncelle, disons, dans la forme. Mais oui, oui, on m'a repéré sur la route.
Alors aujourd'hui aussi, vous êtes venu avec votre accordéon, là. Vous l'avez emmené parce que vous nous aviez proposé justement de faire entendre votre instrument live. Peut-être parce que si vous ne vous en séparez jamais, je ne sais pas. En tout cas, c'était une façon, c'est ce que vous nous avez proposé, de raconter une partie de votre voyage. Alors là, on va quitter la Géorgie, enjamber rien que ça, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Iran et le Turkménistan que vous avez traversé. Alors à l'écoute du doudouk, du tar, du kanoun et tant d'autres instruments, parce qu'il y en a beaucoup. Pour écouter une polka, c'est ce que vous nous avez proposé, qui nous emmène donc en Asie centrale, en Ouzbékistan. Racontez-nous exactement.
Alors, en Ouzbékistan, j'ai eu l'immense privilège d'être présenté à un musicien qui s'appelle Sadreddin Gulov. Je dois avouer que c'est la seule partie de mon voyage que j'avais préparée à l'avance. Comme c'est la seule... Ça va. C'est grâce à un ami ethnomusicologue rencontré en France que j'ai pu faire la rencontre de Sadreddin Gulov à Boukhara. Boukhara, une ville magnifique que je pense beaucoup de monde connaît pour son passé sur la route de la soie. Et Sadreddin m'a un peu plongé dans l'univers bouillonnant musical de cette ville. En fait, son univers bouillonnant musical. Je suis resté 2 semaines à ses côtés. Un peu comme Thaïssa, j'ai pris des cours auprès de lui pour en apprendre sur la musique ouzbek. Alors, c'est là où il faut parler un peu des musiques que j'ai aussi découvertes pendant ce voyage. Moi, j'ai voyagé avec un accordéon. L'accordéon, c'est un instrument international, mais qui permet de jouer des musiques populaires, de véhiculer des airs populaires. Mais pour des musiques plus classiques ou traditionnelles, disons, c'est un peu plus compliqué. En Asie centrale, on joue la musique du monde arabo-musulman, disons. Donc, ce n'est pas très adapté pour les claviers comme l'accordéon. Mais Sadreddin m'a fait un peu découvrir tout ça. Donc, avec lui, je suis allé autant dans les studios de musique écouter son ensemble de musique traditionnelle classique de Boukhara. Il m'a invité dans les universités où il donnait cours. Et il m'a aussi invité, ça c'est les moments les plus sympas, il m'a invité dans les mariages dans lesquels il joue avec sa troupe de mariage. Donc c'est un musicien traditionnel complet, je dirais, puisqu'il fait à la fois vivre le répertoire classique et à la fois il va jouer pour toutes les cérémonies de la vie qui demandent de la musique. Et effectivement, c'est plutôt dans les mariages que se retrouve l'accordéon. Alors aujourd'hui, c'est plutôt les synthétiseurs. Mais... dans les mariages et dans la vie ouzbek, il y a certaines de ces mélodies, oui, qui sont emblématiques et qui font danser. Est-ce que je peux peut-être dire juste une anecdote
avant de jouer ?
Ouais, ouais. Dans les mariages dans lesquels il m'a amené, je me rappelle être assis à la table des musiciens en attendant que le mariage se déroule, en écoutant la musique. Alors j'étais un peu triste parce que les danseuses et les caméramans qui partageaient ma table étaient tous à l'œuvre. Et donc j'attendais un petit peu...
Seul et esselé,
que quelque chose se passe en buvant ma vodka tout seul. Et jusqu'à ce que Sadreddin interrompe la musique appelle le Françous au micro, en passant par le maître de cérémonie qui rythme un peu la soirée. Et donc, moi, je me retrouve le micro tendu à devoir parler devant 600 personnes. Là, c'était un salon de mariage immense, des gens qui comprenaient évidemment rien à ce que je pouvais dire. Donc, je me suis retrouvé à improviser quelque chose en français pour toute l'assemblée qui découvrait que j'étais là. Et c'était très drôle parce que Sadreddine m'avait ensuite repris le micro pour traduire ce que j'avais dit. Mais or, il n'avait aucune idée de ce que j'avais dit, puisqu'il ne parlait pas français non plus. Donc je pense qu'il a un petit peu raconté ce qu'il voulait à l'assemblée, et tout le monde a ensuite applaudi, et puis je me suis retrouvé copain avec tout le monde.
Mais il y a un langage qui est universel, et vous me voyez venir, c'est évidemment celui de la musique.
Ouais.
On va écouter cette polka, comment est-ce qu'elle s'appelle ?
Alors c'est une polka qui s'appelle Andijan Polka. Elle est connue non pas seulement en Ouzbékistan, mais dans toute l'Asie centrale. Il faut dire que ça a été mon passeport musical pour la suite de mon voyage, puisque je l'ai joué jusqu'aux portes de la Chine dans un peu toutes les circonstances. Et à chaque fois, ça a été le bonheur et vraiment la carte magique pour faire des rencontres.
On vous écoute.
Peu moins facile de jouer cette polka dans un environnement et un contexte extrait
que dans un mariage ouzbek ou dans la rue en Azerbaïdjan, c'est ça?
Oui, c'est pas un morceau de concert, hein, c'est un morceau un peu de joie, de vie qui m'a fait rencontrer toutes sortes de personnages.
Mais c'est ça justement ton voyage en accordéonistan, c'est qu'on découvre finalement un pays, un peuple, des peuples. Il y a vraiment ce côté populaire, on le dit beaucoup évidemment, de l'accordéon. Mais on sent que c'était aussi ta façon d'envisager le voyage. C'était de justement aller à la rencontre des autres, quitte à frapper à la porte, à pousser les portes, à se rencontrer dans la rue.
Bah oui, c'était un petit peu ma façon aussi de remercier les gens que j'ai rencontrés de leur hospitalité, de leur gentillesse. Et puis, c'était aussi ma façon de pimenter un peu le voyage, parce que c'est beaucoup plus sympa quand on fait danser, quand on fait chanter. Là, je le fais surtout pas au micro, mais pendant ce voyage, j'ai aussi beaucoup chanté. En apprenant pas forcément des langues, mais en faisant un petit peu du phonétique. Mais en tout cas, ça, c'est très important parce que... Enfin, c'est très important. En tout cas, pour moi, c'était une porte d'entrée de véhiculer un répertoire qui est le répertoire des gens chez qui je me rends. Avec la polka en Asie centrale, c'était plus pour danser. Donc oui, j'ai fait danser des... Et dans une soirée à la frontière entre l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan, justement, non loin d'une ville qui donne son nom à cette polka. Donc c'était vraiment l'endroit tout désigné. J'étais avec un autre voyageur à ce moment-là, on avait passé la soirée à faire danser des camionneurs ouzbeks qui pour moi, à ce moment-là, je trouvais ça assez fantastique parce que pour moi, c'était vraiment eux les voyageurs de la route de la soie. Parce que donc, à ce moment-là, mon niveau de russe me permettait à peu près de comprendre qu'ils arrivaient de la frontière chinoise et qu'ils avaient traversé toutes les galères avec leur camion qui pouvait faire 100 tonnes des fois. Avec la neige, j'étais en hiver, c'était au mois de décembre. Et donc c'était assez magique de partager cette soirée musicale dans ce caravansérail un peu des temps modernes. Quoi. C'est un hôtel un peu tout miteux. Voilà ce type de rencontre avec la musique.
Allez, on continue de voyager avec vous, Adrien Segui, accordéoniste français nomade. Vous nous emmenez en accordéonistan, ce pays imaginaire où l'on verrait bien, tiens, pourquoi pas, Marco Polo guinché sur de la musette à un mariage ouzbek. Mais là, tout de suite, on va où ça ? La suite ?
Au Kyrgyzstan.
Au Kyrgyzstan. Sultanım sultanım Yapcaşı laylanana Okumuş tayyaz yürüpünü Yengil bir sahana Тартынбай бери карап, үчі жаным, мен құжақтан жүзінді. Үчі жаным, үнті бөлі күгін болып, жүрчі жаным, жүрчі жаным. Тартынбай бери карап, үчі жаным, мен құжақтан жүзінді. Үчі жаным, үнті бөлі күгін болып, жүрчі жаным, жүрчі жаным. Avec ce morceau joué par un jeune Kirghiz de 15 ans seulement et déjà ambianceur de mariage lui aussi, nous voici donc à présent au Kyrgyzstan, aux portes de la Chine. Alors le choix de ce morceau ne dit peut-être rien ou si peu de ce pays de montagne et de cavaliers nomades. D'autres morceaux que vous avez collectés, Adrien, durant votre voyage, joués par exemple au koumouz, un instrument à cordes, des bardes que j'ai découvert qui évoquent de fières cavalcades et des légendes locales aussi, sera peut-être plus parlante. Mais on a choisi ce morceau parce qu'il suscite, je trouve, une émotion propre à l'accordéonistan, voire à l'instrument, dont on n'a peut-être pas parlé encore. Ce que j'appelle moi, et vous me direz quels sont vos mots, mais une certaine mélancolie joyeuse ou festive.
Alors, joyeuse, quand je me rappelle quand j'ai enregistré Turgunbek, donc qui est le nom de cette accordéoniste de 15 ans, la copine avec qui j'étais, qui me permet de faire les traductions, m'avait dit « mais oui, c'est joyeux parce qu'au Kyrgyzstan, on aime bien les histoires qui finissent bien ». Mais cette mélancolie, elle vient aussi du son de l'accordéon, hein, qui est surtout, si vous écoutez un peu la musique russe, qui... En fait, l'accordéon, c'est un instrument qui est tout désigné pour certains types de musique. En France, la valse, évidemment. Et en Russie et dans les pays d'ex-URSS qui ont été influencés par la musique russe, on entend la romance russe un petit peu qui est véhiculée par l'accordéon. Et ensuite, la mélancolie. Bon, après, moi, c'est un sentiment qui me charme beaucoup. Après, qu'il faut faire attention, c'est un peu dangereux. C'est un peu une drogue un peu dont il faut...
un peu douce.
Et utiliser avec parcimonie. Mais ça... ouais, ça m'a un peu accompagné. En fait, j'ai découvert la collecte sonore un petit peu par hasard lors d'un voyage en train en Roumanie. J'avais enregistré des musiciens à Budapest et j'allais en Roumanie acheter un accordéon d'ailleurs. Et du coup, dans le train, en traversant les Carpates, j'écoutais ce que j'avais enregistré en regardant le paysage défiler par la vitre du train. Et en fait, ça m'avait plongé dans une espèce de sentiments, il y avait un peu de mélancolie dedans parce que forcément le paysage qui défile et puis cette musique qui est la musique de ce que je suis en train de voir. Après, bon, c'est derrière une vitre, c'est la musique, c'est avant tout aussi quelque chose d'humain, hein. Mais en tout cas, le pouvoir de la musique sur moi, il est assez fort, quoi.
Alors au bout du chemin de ce voyage en accordéonistan, il y a enfin, on y arrive, la Chine et le sheng, tant attendu, cet instrument donc ancêtre de l'accordéon, qui se mérite quand même, puisque quand on vous suit, vous racontez que vous allez devoir traverser donc Kashgar, au cœur du pays ouïghour, puis le désert du Taklamakan et le plateau tibétain du Qinghai pendant une semaine de minibus. Ensuite, vous débarquez à Xi'an, qui est un des terminus historiques ou un départ historique de la route de la soie. et finalement reprendre la route vers le sud-est dans le Guizhou, parmi cette fois les Miao, une minorité chinoise rurale et animiste. Et c'est là où, pour la première fois, vous entendrez enfin le fameux Sheng. Alors là, on n'est peut-être plus dans la mélancolie, on est presque dans un sentiment hypnotique, puisque là, quand on entend ce Sheng, en fait, il n'y en a pas d'ailleurs qu'un seul, il y en a plusieurs. Racontez-nous un petit peu cette scène. Comment est-ce que vous avez débarqué? Comment est-ce que vous êtes arrivé parmi les Miao et entendu tout d'un coup, non pas un seul instrument, mais plusieurs, dans un rythme lancinant, puisque ça a duré longtemps? Racontez-nous.
Oui, encore une fois, complètement par hasard, je me suis retrouvé au bon endroit au bon moment. Alors, je savais que j'étais dans la région dans laquelle le Sheng est beaucoup joué. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce n'est pas joué forcément pour la musique, mais c'est joué pour accompagner les rituels de ce peuple Miao, qui est un peuple animiste. Donc en fait, quand je suis arrivé dans ce village, je ne le savais pas, mais je me trouvais là le 12e jour d'une célébration de 13 jours. Donc c'est... Et c'était un moment très spécial, puisque... Ils invoquaient, alors ça j'ai appris tout ça, je l'ai appris à peu près sur le moment et je l'ai décortiqué plus tard, mais ils invoquaient leur divinité animiste qui apparemment se trouvait être des dragons pour résoudre des problèmes dans le village. Et donc je me trouvais sur la place du village à ce moment-là, en sachant qu'il allait se passer quelque chose, mais je ne savais pas exactement quoi. Et effectivement, au fur et à mesure, j'ai vu des hommes suspendre un gong au milieu de la place à l'arbre. Puis j'ai vu un petit groupe qui portait des tuniques un peu étranges, puisque autour de la taille, ils avaient une ceinture de serviettes de toilette assez extraordinaire. Plein de serviettes de toilette de toutes les couleurs, mais pas des serviettes de toilette, disons, traditionnelles, entre guillemets, mais vraiment des serviettes de toilette qu'on achète au supermarché, donc de couleurs un peu fluo. Et qui ont commencé à tourner autour du gong et au fur et à mesure ont été rejoints par tous les villageois, donc tout le monde très très bien habillé, les femmes avec des costumes magnifiques, des parures en argent, des chapeaux en argent avec plein de petits grelots sculptés au-dessus de la tête, et ces joueurs de Sheng qui ont commencé à se mettre en formation. Et c'est trop drôle parce que ces Sheng, en fait, vu de loin, à un moment, j'ai vu quelqu'un arriver avec un espèce de gros tas de bambou entre les mains, comme un gros fagot. Et au début, je n'ai pas vraiment saisi que c'était des instruments de musique. Et il a commencé à en distribuer à tout le monde. Et en fait, tout le monde a commencé à souffler dans le Sheng. Et en fait, c'était des sortes de Sheng assez simplifiées, puisque uniquement 6 tuyaux. Donc je pense pas qu'avec cet instrument-là, on puisse développer toute la musique possible. Mais donc il se lance dans une espèce de transe un peu monodique, ininterrompue. Et comme effectivement ils étaient plusieurs, ben, ils faisaient une sorte de son continu. Et on a regardé. En fait, ça a duré jusqu'à quasiment 2h du matin. Donc là, c'était 15h. Donc ça a duré pratiquement 12 heures d'affilée. Et au fur et à mesure, tout le monde se mettait à danser. Il y avait beaucoup de vin de riz qui circulait dans l'assistance pour, je pense, un peu chauffer tout le monde. Et ouais, ça a duré. C'était très hypnotisant.
Donc un final en transe, puisque à l'issue de ce festival, après 13 jours de musique, on range les Sheng et le gong. Et vous tentez quand même désespérément un ultime duo, finalement, entre l'ancêtre et son héritier, donc le Sheng et l'accordéon. On ne va pas en raconter la teneur et la fin. On va laisser aux auditeurs curieux le soin d'aller jeter une oreille au dernier épisode chinois de votre podcast Un voyage en accordéonistan. Une chose est sûre, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage. Un voyage qui aura su, on l'a dit, être aussi libre que la hanche de votre instrument, l'accordéon. Alors en conclusion, Adrien Segui, comment est-ce que ce voyage vous a façonné, vous a transformé? Comment on ressort d'un voyage en accordéonistan?
Mal.
C'est vrai?
Enfin,
mélancolique?
Bien. Non, c'était...
Mal alors?
Non, quand je dis mal, on revient un peu mal dans sa tête parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on est censé faire après ça. Effectivement, après, quand je suis rentré, maintenant je...
Vous aviez plein de sons quand même, vous avez tellement collecté d'instruments, de musique, de rencontres. Il y avait de quoi faire.
Il y avait de quoi faire. Je ne savais pas trop par quel bout prendre ce voyage. Au départ, en fait, cette série de podcasts que j'ai réalisé pour raconter tout ce voyage, je l'ai réalisé 4 ans après être revenu, parce que ça m'a pris beaucoup de temps à trouver la meilleure manière de tout restituer. Donc là, je pense que je l'ai trouvé enfin. Et non, pourquoi je dis mal ? C'est parce que, effectivement, j'ai une formation d'ingénieur, et quand je suis rentré, j'ai commencé un peu à travailler, puis je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça qui me convenait, et j'ai tout plaqué, et maintenant je suis accordéoniste.
Pleinement musicien à temps plein.
Oui, pleinement musicien à temps plein, et c'est vraiment ça, je pense, qui me passionnait dès le départ. Et après, comment on revient d'un voyage comme ça? Avec une connaissance accrue des régions que j'ai traversées, que je ne connaissais pas du tout, des musiques que j'ai pu enregistrer, des connexions entre ces musiques. Et je dirais plein de graines à planter un peu pour la suite, quoi.
Et alors la suite, elle est déjà plantée, la graine?
Oui, maintenant, je la fais pousser en musique. J'ai cofondé ici un groupe 2 ans après être rentré, un groupe qui s'appelle Asaphir. Et c'est ces musiques que j'ai découvertes à Istanbul qu'on continue de jouer ici. Donc, alors je suis ravi parce que dans notre formation, il y a des instruments que j'ai découverts pendant ce voyage, notamment le kanoun, le oud que je connaissais déjà, l'accordéon. On a également une clarinette et des percussions et une chanteuse. C'est une chanteuse grecque, donc on se concentre sur ce répertoire grec. Il faut savoir que c'est un répertoire qui est intimement lié au répertoire turc. Moi, c'est des musiques que j'ai découvertes pendant ces 3 mois sur Istiklal à faire danser les Turcs. Et donc, voilà, Asaphir, c'est un nouvel aboutissement pour moi parce qu'on joue depuis 2 ans et on vient de sortir notre premier album. C'est réarrangé à notre sauce, on est à Paris, maintenant on n'est plus là-bas. Mais en tout cas, on fait connaître cette musique au public d'ici. Et pour moi, c'est un peu revivre
le voyage.
C'est un peu revivre le voyage et c'est continuer à baigner dans ces musiques que j'ai découvertes vraiment à l'occasion de l'accordéonistan.
Merci Adrien Segui.
Merci.
Je rappelle le titre de votre podcast SoundCloud aussi et blog, richement documenté, Un voyage en accordéonistan. Laura Larry, Céline Develay, on vous salue chers auditeurs d'ici et d'ailleurs. À la semaine prochaine. On se quitte en musique avec justement un extrait de votre groupe Asaphir. Et encore merci pour le voyage.
Merci beaucoup.
Si loin, si proche, quand vous le souhaitez, en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur rfi.fr. Session Lab.